Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode de notre balado, notre podcast, le service politique, que nous venons d'enregistrer avec Thomas Soulier, Anne-Saura Dubois, Elisabeth Tholomé. Et on a parlé de quoi ? Du sujet qui occupe les conversations en ce moment, autour de la nouvelle année. Ce fichu Omicron qui occupe aussi beaucoup les esprits des responsables des états-majors politiques. Comment ce variant est en train de percuter la campagne présidentielle? Est-ce que ça va changer les dynamiques de campagne? Est-ce que ça favorise certains candidats? Est-ce que ça en défavorise d'autres? Est-ce que ça pourrait avoir un effet sur l'affiche du second tour? On a parlé de tout ça donc, dans cet épisode. À 115 jours du second tour de la présidentielle, puisque nous sommes le jeudi 30 décembre, et c'est donc exactement aussi à 100 jours du premier tour. Salut à tous.
Salut Philippe.
Salut Philippe.
Salut Philippe.
Alors c'est un peu curieux, mais c'est une bonne illustration du sujet dont nous allons parler, d'Omicron, puisque nous sommes ensemble au bureau, mais nous sommes séparés dans des pièces différentes pour enregistrer ce podcast, parce que même se retrouver quelques minutes pour enregistrer un épisode, ce serait risqué dans ce contexte. Toi, Anne, tu es chez toi?
Oui, absolument.
Bon. Franchement, si on s'était dit il y a un mois, quand on parlait de la campagne présidentielle, de l'organisation du service, de la manière dont on allait couvrir telle ou telle campagne en janvier, février, mars, avril, est-ce qu'on aurait imaginé qu'on serait en pleine vague d'un nouveau variant et que, au fond, ça chamboulerait tout? Franchement, je me souviens avoir entendu pour la première fois parler de ce nouveau variant juste après une émission qu'on avait faite un soir avec Jean-Luc Mélenchon. Et je me suis dit, ah, c'est pas grand-chose, ça va rien changer. En fait, ça change tout, non? Vraiment, tout a changé, là, en quelques semaines.
Bah, c'est marrant que tu dises ça, parce que moi, juste avant qu'on fasse ce podcast, j'étais en train de relire mes notes de différents entretiens, déjeuners que j'ai pu faire avec des politiques ces dernières semaines. Et je disais à Thomas, justement, j'étais, mais en fait, je peux rien utiliser, parce qu'en 3 semaines, tout est tapé déjà. Tout ce qu'on m'a dit sur le Covid, sur la politique, sur la campagne, il y a 15 jours, 3 semaines... C'est inutilisable aujourd'hui puisque tout est remis en perspective avec l'arrivée de ce variant Omicron. Et franchement, bien malin celui qui peut prévoir comment va se dérouler la campagne dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En tout cas, mes interlocuteurs sont tombés à côté jusqu'à présent.
Et toi, Thomas, tu as la même impression?
Ma même impression, alors tu dis il y a un mois, mais je m'amusais, bon, on a les jeux qu'on mérite, mais je me suis amusé à écouter les vœux d'Emmanuel Macron il y a un an. Quasiment jour pour jour.
Ah oui, avec la litanie des noms, quand il disait telle infirmière, machin.
Oui, Marie Corentine, 24 ans, Jean-Luc, chauffeur, éboueur, etc. Et il y a un an, on avait tous quand même l'espoir avec ce vaccin qu'on allait, au bout de quelques mois, ça y est, tirer un trait sur le Covid et sur le coronavirus, comme on l'appelait parfois à l'époque. Ça nous paraît une éternité, mais ce n'est pas si longtemps que ça. Et on voit qu'un an plus tard, on a plus de 200 000 cas. On est en train de se dire, est-ce que vraiment il y aura une campagne présidentielle comme on pouvait l'imaginer? Jamais on aurait imaginé se poser ces questions-là il y a un mois comme il y a un an. C'est quand même très frappant. Et comme le disait Lisa, c'est vrai qu'avec les politiques avec qui on discute évidemment au quotidien, qu'ils soient députés, ministres de l'opposition, etc., on se dit, personne n'a vu venir ce truc. Et personne même ne s'est dit, comment on va faire campagne s'il y a un variant aussi dangereux et aussi contagieux, quoi.
Et d'ailleurs, l'un des sujets, Anne, c'est que c'est effectivement l'organisation des réunions publiques, de la campagne de manière générale à ce titre-là. Toi, tu as été en contact en début de semaine avec le Conseil constitutionnel pour essayer de comprendre exactement quelle est cette règle, cette jurisprudence du Conseil constitutionnel qui fait que des réunions publiques pourraient se tenir sans jauge, alors même que la plupart des autres lieux de rassemblement, par exemple les concerts, auraient des jauges. Je dis ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages véhéments, voire d'insultes sur les réseaux sociaux quand j'ai essayé d'expliquer la position constitutionnelle, la position du Conseil constitutionnel à ce sujet. Beaucoup de gens ne comprennent pas.
Mais en fait, le Conseil constitutionnel est assez clair dans ses préconisations. Il se base sur la Constitution en disant, quoi qu'il arrive, la dernière chose qui doit rester, c'est l'exercice démocratique et politique. Et donc, même si ça apparaît scandaleux à certains artistes, on l'a vu encore ces derniers jours, qui disent, finalement, nos concerts vont se transformer en meeting politique, comme ça, nous aussi, on pourra continuer à réunir des gens. La Constitution considère, et le Conseil constitutionnel aussi, que la dernière chose qui doit disparaître, c'est la démocratie. Et que donc, on ne touchera pas au meeting politique, de la même façon qu'on ne mettra pas en place de passe sanitaire, sauf si les organisateurs le veulent. Mais oui, ce qui est assez frappant, c'est effectivement que cet argument n'est pas très entendu aujourd'hui. On a l'impression que pour beaucoup de gens, ça a l'air un peu scandaleux que le traitement de faveur soit accordé à la démocratie. Alors que, bien sûr que oui, en effet. Et puis surtout, d'ailleurs, il n'y a aucun exécutif, aucun gouvernement qui se risquerait à dire on va encadrer les meetings politiques. Ça serait évidemment, les oppositions montrées au créneau immédiatement en parlant de scandale, quoi.
Tu parlais d'artistes. Parmi les artistes qui ont été assez, assez drôles, d'ailleurs, assez rapidement là-dessus, il y avait Eddie Depreto.
Qui a
fait un photomontage où il était.
Il a mis sa
tête. Oui, en Macron, avec la tête à photo officielle. Et du coup, je deviens candidat pour pouvoir continuer à chanter. Et du coup, on en parlait l'autre jour en plateau. J'ai dit quelque chose comme en fait, il ne reste plus qu'à Eddie Depreto d'être vraiment candidat à la présidentielle, peut-être des gens voteraient pour lui. Et ça s'est retrouvé dans la story Instagram d'Eddie Depreto qui nous a filmé, ou entre guillemets, ce qu'on se disait en plateau sur lui, éventuellement candidat, s'est retrouvé dans la story Instagram de.
Tu m'as donné des idées à certains.
Exactement.
Et Julien Doré aussi qui a dit mes concerts seront des meetings. Et ce matin, c'est assez rigolo, il a dit maintenant qu'on a cette polémique autour des foires et salons qui ne respecteront pas les jauges, il dit je vais les jouer dans les foires et salons dans toute la France pour pouvoir continuer à exercer mon métier, quoi.
Mais plus largement, là, la question des salles, des réunions publiques, des jauges, des passes, qu'est-ce que ça change, ce virus qui nous percute, ou plutôt ce variant qui nous percute, qu'est-ce que ça change sur la campagne électorale qui allait s'accélérer à la rentrée de janvier? Est-ce que, par exemple, ça change la date d'entrée en campagne effective du président de la République, même si en réalité on sait très bien qu'il sera candidat? Est-ce que ça favorise Emmanuel Macron? Est-ce que ça favorise les partis dits de gouvernement type LREM, LR et donc Valérie Pécresse? Ou au contraire, ça favorise ceux qui, d'une certaine manière, contestent cet état des lieux sanitaires, et notamment qui porte une parole forte contre les excès du tout sanitaire. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen et dans une moindre mesure à Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je veux bien refaire un petit point Conseil constitutionnel. On va dire que c'est une obsession, mais sur la question des temps de parole, on a aussi interrogé le Conseil constitutionnel il y a quelques semaines, parce que quand Emmanuel Macron a pris la parole pour parler, entre autres, du Covid, il y a aussi des opposants politiques qui ont déjà déclaré qui disaient « Mais attendez, évidemment que, comme c'est un futur, on l'imagine candidat à sa propre réélection qui parle, c'est une distorsion de concurrence, en gros, et il a plus de temps de parole que nous. » Et on sent bien, oui, qu'il y a une espèce de... C'est vrai qu'il y a une forme de difficulté pour les oppositions politiques, parce que tout le monde attend les décisions du gouvernement, les décisions qui sont prises par Emmanuel Macron. Et dans ces conditions-là, exister pour les oppositions, les opposants, les candidats déjà déclarés, c'est beaucoup plus difficile. Et là, ces trois derniers jours, il y avait le Conseil de défense. Il y avait certains candidats déjà déclarés qui proposaient des choses ou qui commentaient les décisions qui avaient été prises, mais en fait la seule chose qui intéressait les Français, c'était qu'est-ce qu'avait décidé Emmanuel Macron.
Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas et Lisa?
Je pense que ça a forcément un impact. Moi, je vois deux impacts avec ce variant Omicron. D'abord, le premier, ça va être le crédit ou le débit qu'on va donner à Emmanuel Macron sur la façon dont il gère cette cinquième, voire sixième vague. On le disait déjà depuis quelques jours, quelques semaines, mais là, il prend des décisions qui sont pas faciles à prendre, puisque l'on voit que l'exécutif marche sur un fil. Est-ce qu'il faut fermer certains établissements? Est-ce qu'il faut en laisser ouvert d'autres? Est-ce qu'il faut mettre des jauges, pas mettre des jauges? On voit que c'est assez compliqué de décider. Et en même temps, il y a toujours un peu ce fil rouge et ce point rouge, en tout cas, qui est de on va éviter de confiner le pays et de remettre un couvre-feu. Si ça passe, si le système de santé tient, si malgré les contaminations, les centaines de milliers de contaminations quotidiennes, le pays tient, ça sera forcément mis au crédit d'Emmanuel Macron et ça sera, je pense, un avantage pour lui à partir du moment où il aura déclaré sa candidature. Si ça casse, si ça ne tient pas, ça sera mis à son débit, évidemment, puisque c'est lui qui est au pouvoir, tout procède par lui et toutes les décisions viennent de lui et du Conseil de défense. Le deuxième impact qu'a Omicron, selon moi, c'est sur la déclaration de candidature du président. Alors, on spécule un peu sur la date, on voyait plutôt ça fin janvier, une fois que la présidence française de l'Union européenne serait lancée, une fois qu'il aurait prononcé son grand discours. Si on est encore en plein cœur de cette vague Omicron en fin janvier, je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut se déclarer candidat. Ça serait complètement décalé par rapport au quotidien des Français, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc ça peut faire bouger, selon moi, cette date de candidature, sachant qu'il faut que dans tous les cas, il se déclare 30 jours avant le premier tour. Ça, je crois que c'est aussi le Conseil constitutionnel qui le dit. Donc Anne pourra me confirmer ou pas si c'est bien, non, mais bien c'est, le cas. Plus, mais,
oui, c'est ça. Il y aura forcément un impact.
Il y a la date limite, c'est début mars dans tous les cas. Mais voilà, ça aura forcément un impact sur la façon dont il va se lancer en campagne et la façon, sur les thèmes sur lesquels il va faire campagne également. On ne peut pas parler de tout et n'importe quoi quand on est encore en train de compter les morts à l'hôpital suite à cette épidémie.
En fait, c'est à double tranchant et on ne sait pas de quel côté la pièce va retomber. Il y a une phrase qui m'a frappé il y a quelques mois. Un patron de la majorité me disait au mois d'avril, soit on sera les héros de ce Covid. En clair, on a réussi à bien gérer le pays, on a pris les bonnes décisions comparé peut-être à d'autres pays. Soit on sera, pardon l'expression, mais c'était son expression, soit on sera les connards qui auront tout fermé. Et c'est difficile à voir aujourd'hui comment les Français vont réagir à ce moment-là. Depuis le début, tu posais la question, Philippe, est-ce que ça va bénéficier aux gens plutôt anti, les anti-pass ou anti-vax ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire je résumais pas, je disais pas que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour étaient anti-vaccins, sont pas anti-vax.
Non, mais les Florent Philippot Dupont-Aignan, ils n'ont jamais réussi à transformer un mouvement de rue en mouvement politique qui a du poids et qui arrive à peser dans une campagne électorale. Voilà. Et Marine Le Pen, c'est intéressant. Il y a une réunion dans quelques jours autour de Marine Le Pen pour savoir qu'est-ce qu'on fait le 15 et 16 janvier à Reims pour le grand meeting de rentrée. Alors, le pass sanitaire, c'est non. Le pass vaccinal, c'est non, ça il l'a dit. Comme Jean-Luc Mélenchon et comme Éric Zemmour. En revanche, j'ai une question. Les jauges, est-ce qu'on les fait respecter ou pas ? Personne ne l'oblige, Marine Le Pen, hein, mais est-ce qu'on fait comme toute réunion dans ce pays, que ce soit un concert ou autre ? Si elle réfléchit, c'est qu'elle a compris que si elle ne respectait pas les jauges, et que si, imaginons, il y a un cluster une semaine après Reims, elle en serait tenue responsable, et là, ça pourrait lui coûter des points dans les sondages. Donc on voit que contrairement à Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a une vraie réflexion sur la suite de la campagne et sur comment faire campagne en pensant que l'opinion publique serait plutôt du côté des gens qui respecteraient les règles sanitaires plutôt que ceux qui les dénonceraient en quelque sorte.
Oui, et puis... D'abord, je ne parlais pas des anti-vax. Enfin, je différence entre les anti-vax et ces partis anti-pass notamment. Mais c'est vrai que on peut très bien être pour le vaccin et souhaiter que le vaccin soit largement diffusé, que les Français y adhèrent. Enfin voilà, on peut encourager les Français à se faire vacciner et pour autant se dire. Par exemple, le pass sanitaire qui va devenir le pass vaccinal, finalement, c'était peut-être une erreur du gouvernement de miser trop là-dessus parce que ça ne suffit pas pour faire tourner le pays lorsqu'il y a une nouvelle vague. On peut aussi se dire qu'il y a quelque chose, sans tomber dans du populisme, mais d'un peu anecdotique, quand l'autre jour, par exemple, on nous dit qu'on ne touche pas aux bars, restaurants, sauf on n'a pas le droit d'aller boire un café debout au comptoir, mais on pourrait être assis au comptoir. Par ailleurs, on met des jauges à l'extérieur, mais on met le masque à l'extérieur à Paris. Donc, vous devez porter le masque à l'extérieur, mais vous pouvez aller au restaurant pendant 6 heures assis à côté de gens que vous ne connaissez pas sans masque. Enfin, tout ça, il y a un petit côté gaguesque, absurdistan. Et d'ailleurs, quand j'ai utilisé ce mot le jour à l'antenne après le Conseil de défense, absurdistan, et quelqu'un de la majorité m'a raconté, m'a regardé BFM TV et avoir appelé l'Élysée en disant « Oh mon Dieu, retour du débat sur l'absurdistan ». Et c'est exactement ce qu'il cherchait à éviter. Mais
on peut très bien… dans les rues de Paris, quand on se disait dans telle rue, il y a le masque obligatoire, dans la trottoir d'en face, il n'y a pas de masque. Le retour gaguesque et un petit peu absurdistan. Est-ce qu'il n'est pas inhérent, en quelque sorte, à cette crise sanitaire ?
Peut-être.
Comme on ne sait pas où on va, comme on ne connaît pas ce virus, est-ce qu'il n'est pas inhérent à cette crise sanitaire ? Peut-être, en fait.
Anne, tu voulais parler.
Mais en tout cas, la gestion de la crise Covid et la gestion du Covid en général, c'est en train de devenir même un élément de positionnement politique dans cette campagne. Oui. Vis-à-vis des jauges dans les meetings, on voit bien qu'il y a des oppositions qui commencent dire « Moi, je ne respecterai pas ce principe de jauge, mais c'est pas parce que je crains pour les gens qui viendront à mes meetings, c'est parce que fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec la politique qui est menée par ce gouvernement, la politique sanitaire qui est menée par ce gouvernement. » Et côté Jean-Luc Mélenchon et côté Éric Zemmour, c'est assez clair. Et paradoxalement, c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est peut-être eux qui ont les communautés numériques les plus solides et qui ont le plus travaillé sur... Exactement. Ouais. Parce qu'on comprend bien que ceux qui vont être, qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans les mois qui viennent, s'il n'y a plus de meeting, parce qu'il y a 3 semaines, quand il y a eu le meeting d'Éric Zemmour et celui de Jean-Luc Mélenchon, précisément dans la même journée qu'on a diffusé sur BFM TV, on s'était dit à ce moment-là, je me souviens en plateau pour cette journée, mais peut-être que ce seront les derniers meetings de cette campagne. On n'est pas sûr.
Absolument.
Qu'il y en ait beaucoup, beaucoup d'autres. Ouais. Et eux, ils ont des communautés numériques qui sont très solides. Donc si jamais à un moment il n'y a plus de marché, il n'y a plus de meeting, il n'y a plus de... que vraiment, parce que les gens vont finir aussi par avoir peur d'aller au meeting, même si c'est autorisé, c'est ceux qui ont les communautés numériques qui ont en tout cas un outil fort pour s'en sortir. Et eux, quand je vois la façon dont ils disent, mais quelles que soient les jauges, de toute façon nous... on n'infantilise pas aussi, parce qu'il y a cette façon-là, de manière détournée, le gouvernement infantilise les gens, ils sont bien capables de se protéger, de respecter les gestes barrières. Nous, on fait confiance à nos militants, à ceux qui sont sensibles aux arguments qu'on porte. Eux, ils disent, nous, les jauges, on les respectera pas parce que, d'une certaine façon, on n'est pas d'accord avec la politique sanitaire qui est menée par ce gouvernement. Parce que c'est ce gouvernement qui les met en place, nous, on les mettra pas en place.
Je vous soumets ce que m'a raconté un responsable proche soutien d'un candidat qui me disait que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas quelqu'un qui soutient Jean-Luc Mélenchon, mais qui me disait Jean-Luc Mélenchon est peut-être celui qui peut sortir, enfin tirer profit ou avantage de cette situation, pas profit parce que ce serait indécent de parler de profit, mais disons tirer son épingle du jeu parce que c'est le seul à pouvoir apporter une voie alternative forte contre la politique sanitaire du gouvernement. D'une certaine manière, l'analyse que faisait ce responsable politique, ce stratège, c'était que, d'une certaine manière, ça colle Pécresse à Macron, puisqu'ils sont sur la politique sanitaire assez proches l'un de l'autre, que Marine Le Pen, un peu comme tu le disais tout à l'heure, Thomas, dans une quête de respectabilité, ne va pas pouvoir porter une parole trop forte contre la politique sanitaire, tout en émettant des réserves, elle va devoir, d'une certaine manière, elle ne peut pas trop se distinguer là-dessus. Éric Zemmour, selon ce candidat, était un peu à l'écart de tout ça. Et celui qui pouvait porter une voix alternative forte, c'était Jean-Luc Mélenchon, en parlant de la situation de l'hôpital public, en parlant de pourquoi l'investissement n'a pas été fait dans les classes sur les purificateurs d'air. Et que d'une certaine manière, un opposant, ça doit s'opposer. Et que celui qui peut le plus s'opposer clairement à la politique sanitaire du gouvernement, ou à certains aspects de cette politique sanitaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en tirer... en tout cas, se faire entendre dans les semaines qui viennent sur cette voie un peu alternative.
Je suis d'accord, j'imaginerais une nuance, c'est que je pense qu'Éric Zemmour aussi peut en tirer profit, sachant que Marine Le Pen, comme tu le dis, va se normaliser sur la question, en tout cas, va être, se montrer respectable sur le respect des consignes sanitaires. Donc peut-être que je mettrais plus une pièce sur Zemmour et Mélenchon sur le fait qu'il pourrait capitaliser sur les anti, en effet, et à l'inverse, on parle des anti, mais aussi les pros, ce qui s'est passé... hier à l'Assemblée, le fait que l'exécutif, la majorité, reprenne un amendement d'un député LR, Guillaume Larrivé, sur le fait de pouvoir accepter un pass sanitaire dans un meeting. Pourquoi ils le font ? Ils savent très bien que ça va être retoqué sûrement dans quelques jours, dans quelques semaines. Ouais. Voilà, mais c'est surtout une manœuvre politique, c'est pas une manœuvre juridique, c'est une manœuvre politique, c'est de dire on veut tendre un piège aux oppositions en disant, vous voyez, on vous donne une possibilité. Vous ne prenez pas cette possibilité, eh bien, dont acte, si vous avez un cluster demain, ce sera votre faute, pas la nôtre.
Elisa, tu suis particulièrement, ici à BFM TV, le gouvernement, la majorité, le Premier ministre, les ministres. Et c'est vrai que naturellement, dans une campagne électorale, une campagne présidentielle, assez naturellement, à partir du mois de janvier, l'action gouvernementale ralentit. Je ne dirais pas s'arrête, puisque la machine de l'État tourne, mais d'une certaine manière, il n'y a pas de nouveau projet de loi, il n'y a pas de nouvelles actions, il n'y a pas de nouvelles réformes. On gère les affaires courantes. Là, c'est très différent, puisque cette fois-ci, Jean Castex ne va pas s'effacer, ne va pas disparaître de l'actualité, il va être au cœur de l'actualité dans les prochaines semaines. Même chose pour Olivier Véran. C'est-à-dire qu'on va, d'une certaine manière, le gouvernement, l'action du gouvernement, les choix que fera le gouvernement vont être au cœur de l'actualité très tard dans la campagne électorale.
Bah, de fait, Matignon va être un peu au cœur du réacteur. Ouais. Et ça me fait plaisir de dire ça, parce que c'est vrai que Matignon a un peu tendance à être parfois écrasé par tout ce qui se passe à l'Élysée, encore plus lors d'une campagne présidentielle. Mais là, pour le coup, les décisions pratiques, leur mise en œuvre, l'annonce des mauvaises nouvelles, entre guillemets, des mesures qu'il faut prendre pour enrayer cette épidémie de Covid, de fait, ça va être, la balle va être du côté de Matignon plus que de l'Élysée, où on suppose que le président, dans la perspective de sa campagne, va vouloir prendre aussi un peu de hauteur. Absolument. Et se contenter, lui, de distiller les messages forts. Pour ce qui est de la mise en œuvre pratique des choses, voyez avec mon plus proche collaborateur, hein, si je caricature, oui, et simplifie un peu l'organisation de la 5e République. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, Philippe, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu un rendez-vous justement, oui, avec la conseillère de Jean Castex à Matignon, quand on lui posait un peu cette question sur quel va être le rôle de Jean Castex dans ce début d'année 2022. Elle avait une réponse en fait assez crue et assez simple finalement. Elle nous avait dit... Bah nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça tourne, quoi, qu'il y ait une continuité de l'État, que oui, même si c'est pas visible, même si c'est un peu en sous-main, même si on n'est pas sur le devant de la scène, et ben l'État est quand même tenu. Le Premier ministre, il va servir à ça pendant ces prochaines semaines, et ça va être nous qui allons faire en sorte que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que le bilan soit quand même plutôt bon, même si le président de la République ne pourra certainement pas gagner la campagne et la présidentielle, l'élection sur son bilan. Au moins, ça sera quelque chose qui sera mis à son crédit, à nouveau, si on voit que les décisions qui ont été prises finalement ont été les bonnes.
Rappelle-toi, Elisa, on en parlait souvent ensemble, mais il y a quelques semaines, il avait fait un déplacement à Jean Castex, on avait parlé avec Elisa, où il disait « je suis l'intendant, je suis là pour
c'est ça.
Voilà. » Il assumait en fait ce côté intendance, mais là en fait c'est pas l'intendant, ça va être le super gérant pendant encore, pas encore 3-4 mois, lui qui devait être en effet effacé, un peu le fantôme pendant 4 mois. On va revoir encore les conférences de presse, peut-être toutes les semaines, je ne sais pas, mais on va avoir ça. Donc, il va reprendre un petit peu de l'importance dans le dispositif, alors que la campagne devait l'effacer. Et même au niveau des thèmes de campagne, souvenez-vous, l'été dernier, alors, c'est à peine 6 mois, mais on disait ça va être l'immigration et la sécurité, les thèmes de la campagne. Il y a 2 mois, on disait, ah non, avec le gazole, l'essence, ça va être le pouvoir d'achat. Voilà. Et maintenant, ça va être... le Covid, au moins pendant 3 semaines, un mois, on va dire, on verra pour la suite. Mais on voit que c'est une campagne où les thèmes de campagne changent tous les 2 mois, quoi. C'est assez frappant.
Mais en tout cas, ça inquiète beaucoup les oppositions. Voilà.
Et ça nous inquiète aussi parce qu'on ne veut pas, nous, être contaminés. On veut pouvoir continuer à couvrir la campagne.
Pas d'absent dans le service, hein. Je préviens le service, les reporters qui nous écoutent. Personne ne fait de dîner ou de déjeuner jusqu'au 24 avril.
Exactement.
Je veux personne de cas contact Covid. Le message
est passé.
Et
comment on va tenir, attends.
Exactement. Bon, bonne fête de fin d'année à tous. Et puis on aura l'occasion de faire d'autres épisodes au début de 2022.
Oui. Merci Philippe. Salut.
Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une étoile sur votre plateforme de téléchargement. Ça permet aux algorithmes de pousser le service politique et de le proposer à de nouveaux auditeurs. C'est important. Donc merci pour ça. À bientôt.